Bon, imaginez des milliers de canoës en plastique fluo qui dévalent une rivière tout l'été, avec leur lot de pique-niques, de pagaies qui s'entrechoquent, de cris joyeux, enfin bref.
Ouais, sur le papier, ça ressemble vraiment au cauchemar écologique parfait.
Exactement. Sauf que cette même rivière, bah, elle coule au cœur de la vallée de la Smois, dans les Ardennes, un territoire hyper luxuriant qui a carrément décroché le statut de parc national fin 2022.
Ce qui est énorme, en fait.
Ah oui, totalement. Et donc, dans cette plongée en profondeur, notre mission, c'est de décortiquer ce paradoxe. Comment on fait cohabiter un tourisme de masse avec la préservation d'espèces ultra rares et farouches, genre la loutre ou la cigogne noire, sans tout détruire?
Mais c'est un vrai tour de force, hein. Et la première réponse, en fait, elle se trouve directement dans la forme même de la rivière. Ici, c'est pas l'homme qui dicte les règles de base, c'est la géographie.
Ah, parce qu'elle serpente beaucoup, c'est ça?
C'est ça, la Semois a des méandres très prononcés. Et ça force une navigation qui est naturellement lente. Et cette lenteur, c'est vraiment la clé de voûte de leur écotourisme, parce que ça maintient un calme qui est vital pour la faune.
Surtout pour les oiseaux, j'imagine.
Ouais, prends la cigogne noire par exemple. C'est un oiseau forestier tellement sensible au moindre dérangement que les passionnés l'appellent le Saint Graal de l'observation.
D'accord. Donc si on file la métaphore, la rivière fonctionne comme une sorte d'autoroute naturelle, mais avec ses propres ralentisseurs intégrés pour protéger les piétons locaux.
C'est une très bonne image, ouais.
Sauf que, bon, une rivière, même lente, ça n'empêche pas le bruit. Comment on fait pour isoler ces fameuses cigognes des grands groupes qui viennent juste pour s'amuser?
Et découpons la rivière sur mesure tout simplement. Les gestionnaires du parc ne traitent pas tout l'espace de la même façon. Ils ont créé des parcours très distincts pour filtrer les différents publics. D'un côté, on a un mini parcours de 7 km avec très peu de fond.
Ce qui est idéal pour canaliser les familles, du coup.
Exactement, les familles ou les groupes d'amis qui sont par nature plus bruyants et moins focalisés sur l'observation. Et de l'autre côté, ils proposent des expéditions beaucoup plus longues, jusqu'à 23 km.
Ah oui, c'est plus du tout le même délire.
Non, voilà, ces tracés-là, ils s'enfoncent dans les zones les plus silencieuses et attirent uniquement les sportifs aguerris qui cherchent l'effort. Et ça préserve les zones les plus sensibles.
Ok. Donc la géographie et les parcours agissent comme un filtre naturel. C'est malin. Mais une rivière sinueuse, ça n'empêche pas le climat de faire des siennes. Ni quelqu'un de jeter sa canette dans l'eau.
C'est sûr.
Quand on gère un flux massif comme ça, comment on s'assure que la nature ne trinque pas la première grosse sécheresse?
Ben c'est là qu'intervient la technologie. Contre le dérèglement climatique, leur approche est sans appel. En fait, ils ont des capteurs connectés qui mesurent le niveau et le débit de l'eau en temps réel.
Et si ça baisse trop?
Et ben, un logiciel bloque automatiquement toutes les réservations de kayak.
Attends, vraiment, tout est arrêté du jour au lendemain?
Complètement. Et la raison est purement écologique. Si l'eau est trop basse, le plastique lourd des kayaks, ben, il va racler le fond de la rivière.
Aïe.
Et le problème, c'est que ce fond, il abrite les frayères de la truite fario. Tu sais, les petits nids de gravier où les truites pondent leurs œufs. Un seul coup de pagaie au mauvais endroit, et c'est toute une génération de poissons qui est écrasée.
Ah, je comprends mieux l'enjeu sous la surface. Mais alors sur le papier, c'est très beau de tout bloquer en cas de sécheresse.
Ouais.
Sauf qu'une fois sur l'eau, quand le niveau est bon et qu'on est loin des gardes forestiers, qu'est-ce qui empêche un groupe de laisser traîner les emballages de leur repas sur la berge? Surtout qu'il n'y a pas de poubelle au beau milieu de la nature.
Ben ça, c'est le grand défi de l'écotourisme, clairement. Et la solution qu'ils ont trouvée relève un peu de l'ingénierie comportementale ou de la psychologie inversée.
C'est-à-dire?
En fait, chaque embarcation louée est fournie avec un gros bidon étanche. À première vue, c'est juste un service client basique, un récipient pour protéger les téléphones et les sandwichs de l'eau.
Ok, classique.
Mais une fois le pique-nique terminé, ce bidon vide, il est juste là, sous les yeux des touristes.
Et bam, il devient naturellement une poupelle flottante.
C'est exactement ça. On fait pas la morale aux gens, on distribue pas des contraventions impossibles à vérifier, on rend simplement le fait de ramener ces déchets beaucoup plus pratique que de les jeter dans l'eau.
C'est super astucieux.
C'est une stratégie redoutable, ouais. On force une excellente pratique écologique par le biais d'un objet perçu comme purement utilitaire, quoi.
En gros, chaque touriste participe à la propreté de l'écosystème, presque sans s'en rendre compte.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Bah, que l'écotourisme, c'est pas juste une petite promenade, c'est vraiment une logistique millimétrée.
Absolument. C'est une gestion où chaque détail compte pour que l'humain puisse profiter sans détruire.
Et ça nous amène d'ailleurs à une pensée finale assez provocatrice, parce que cet équilibre, bah, il est rempli de contradictions.
C'est vrai.
À l'automne, ces mêmes espaces fréquentés par des kayakistes pacifiques partagent le territoire avec des battues de chasse massives, ce qui exige des vérifications de sécurité quotidiennes ahurissantes pour éviter le pire.
Ouais, l'ambiance change radicalement.
Et par ailleurs, on observe que les campeurs recherchent la rusticité absolue, l'expérience d'un feu de bois au bord de l'eau. Mais ils exigent en même temps de l'eau parfaitement chaude ou sanitaire. Alors avec ces autoroutes naturelles, ces capteurs et ces bidons utilitaires, on peut vraiment se demander la nature sauvage existe-t-elle encore? Ou n'est-elle devenue qu'une magnifique illusion savamment administrée pour notre besoin d'évasion?